J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce matin ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. En RDC, la majorité des Congolais vivent dans les zones rurales. Celles-ci constituent par ailleurs une majeure partie du territoire national, mais ces populations vivent dans la précarité, dans un manque criant d'accès aux services sociaux de base, difficulté d'accès aux soins de santé, à l'électricité, à l'eau potable et aux infrastructures scolaires. Et pourtant, depuis 1977, la RDC dispose d'un ministère essentiellement voué au développement rural. Il a même été créé à une certaine époque des instituts supérieurs de développement rural dans quelques provinces du pays en vue de former des techniciens de développement rural. Plusieurs décennies après, les conditions de vie dans les zones rurales n'ont fait que se détériorer, avec comme conséquence un exode croissant au fil des années. À ces jours, l'ambitieux programme de développement des 145 territoires, PEDEL 145 territoires en sigle, initié par le gouvernement congolais, constitue un espoir pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural, en dépit du fait que, selon plusieurs observateurs, les taux d'exécution de ce projet demeure encore faible. Que pensez-vous du développement rural de la RDC 64 ans après l'indépendance et quelles sont les perspectives d'avenir pour rendre le milieu rural viable? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi composer les 099-716-80-79 pour intervenir en direct. Polydor Basunga est à la mise en nom de ce magazine. Blaise Chindani et Julie Feza Bongonda sur la réalisation et la coordination. Clément Chimanga est là aussi pour l'équipe de multimédia de Radio Okapi. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existaient pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs.
Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons parler de, enfin, faire l'état des lieux du développement rural en RDC, 64 ans après l'indépendance, mais aussi quelles sont les perspectives d'avenir. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Monsieur Mo Yindo Nzangi Butondo. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, ravi de vous avoir dans ce studio. Nous vous disons merci. Alors, vous êtes nouveau ministre du développement rural. Vous arrivez à ce poste à l'aube de la commémoration du 64e anniversaire de la RDC. Quel état des lieux peut-on faire au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne le développement rural 64 ans après l'indépendance?
D'abord, c'est un état des lieux général du pays. Hein. Après 64 ans, je crois que nous avons plutôt reculé. On n'a pas avancé. Donc le développement rural n'est pas du reste de ce que nous avons eu comme déliquescence du pays pendant pratiquement toutes ces années. Comme vous le savez, ainsi que j'ai eu le privilège de pouvoir l'exposer dans la conférence à l'Université de Kinshasa, la Belgique, le Congo belge en fait, en 60, était le 10e pays le plus développé du monde. Puisqu'il y a eu un plan ambitieux qui avait été préparé en Belgique, le plan 49-59, et qui a fait aboutir au développement intégral et intégré de la République démocratique du Congo, par quatre axes, et notamment les mines, et deuxième axe, les infrastructures. Ils ont fait les infrastructures ferroviaires, les infrastructures routières, les infrastructures de transport, l'électricité, les industries. Il y a l'industrie minière, et puis l'élevage et la pêche. Et quand vous trouvez tout ça, ils ont tellement fait des choses tellement bien que c'était réparti sur l'ensemble du territoire. ils ont mis un accent particulier sur les transports, parce que les transports dans ce pays, il est intégral, il est multimodal. Et comme vous le savez, tous les minéraux du Katanga passaient par Matadi. Ça veut dire que toutes ces tonnes de minéraux, ils devaient emprunter passage multimodal. Comme je l'ai dit, ça passe par le fleuve. À l'endroit où le fleuve n'est pas navigable, on a mis les chemins de fer, ça passe par les chemins de fer. Il redevient encore navigable à Kisangani, ça reprend encore les bateaux, ça arrive à Kinshasa, des grands conteneurs de déchargement avec les infrastructures qui allaient avec, puis ça arrive à Matadi, c'est encore les déchargements pour aller à l'extérieur. Ce qui a créé les lots de tous ces passages, des emplois, des activités économiques, des villes, et si vous trouvez les grandes villes, sont pratiquement créées dans des endroits où étaient faits des transports de mains pour les transports de marchandises. Vous allez trouver Kindu, vous allez trouver Ubundu, vous allez trouver Kisangani, et Kinshasa même a été la ville que nous connaissons aujourd'hui parce que c'était pratiquement le point d'arrivée avant de pouvoir emprunter le chemin de fer pour aller à Matadi. Donc, et pendant tout ce temps, nous avons perdu tout ça. Donc ça, c'est de manière très globale que la gouvernance d'après l'indépendance n'a pas réussi à intégrer cet aspect de développement économique qui n'a pas épargné les villages. Et la conséquence, elle s'en est suivie, c'est l'exode rural. Les gens ont fui les villages pour venir à ville. Et donc, je veux dire que c'est ça le diagnostic global qui concerne pratiquement tous les secteurs de notre vie nationale. Mais pour ce qui concerne particulièrement le développement rural, il faut dire que si vous lisez bien les statistiques de ce pays, les entreprises agricoles, les entreprises d'élevage, les entreprises de la petite mine, je vais le dire comme ça, ont cessé de fonctionner dans les villages. Ce qui fait qu'il y a un chômage très grand au niveau des villages qui ne sont restés qu'avec une seule activité, qui est une agriculture de subsistance. Pourquoi de subsistance? Parce que les conditions qui doivent être réunies pour que les villages puissent contribuer au développement du pays, elles sont simples. Ce sont les infrastructures de transport. Ça va faire maintenant plus de 50 ans que les villages ne sont plus connectés aux villes. Par l'absence des routes de cette agricole, par l'inexistence maintenant de plusieurs routes nationales, et par le fait que les voies navigables des dessertes agricoles ont pratiquement été abandonnées. Ce qui crée pas seulement de l'anarchie, de la désolation et de la mort. Je crois que vous avez toujours des nouvelles de naufrages des baleinières dans le pays. C'est parce que le transport n'est plus organisé. Et puis, au-delà de ça, même les peu de gens qui essaient encore de produire quelque chose dans le pays, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir évacuer vers des grands centres de consommation.
Mais M. Ministre, c'est justement ça le problème. Comment expliquer tout cela lorsqu'on sait que depuis, en tout cas, selon nos recherches, depuis 1977, la RDC dispose d'un ministère essentiellement pour le développement rural, c'est-à-dire qui avait pour mission de planifier tout ce qu'il faut pour grand pour développer le monde rural, et rien n'a marché. Comment aujourd'hui nous décrions, nous faisons cet état de lieu qui laisse vraiment à désirer?
Oui, j'ai fait en fait cet état de lieu pour ne pas dédouaner qui que ce soit. Je vous dis, c'est un état de lieu global.
Général.
Dans tous les secteurs
du pays.
Dans tous les secteurs du pays, on a assisté à cette déliquescence. Et cet effet qu'on doit accepter, le ministère du Développement rural, bien évidemment, n'a pas échappé à cela. Il y a eu plusieurs plans qui mettaient l'accent au développement rural. Ceux qui se souviennent, ils savent que Mobutu est venu avec le plan, cette histoire de agriculture priorité de priorité, retour sur les marches, et tout ça, les initiatives comme les Salongo, et tous les restes, c'était des initiatives pour essayer de réveiller le monde rural, pour que nous puissions booster la production locale. Malheureusement, les événements de guerre et les autres qui se sont suivis n'ont fait que maintenant venir répétuer les initiatives. Alors, moi je viens d'arriver au ministère du Développement Rural. Il y a eu beaucoup de projets dans le cadre de mon ministère. Je ne vais pas venir vous dire ici que non, tout ce que j'ai rencontré n'a pas été rose. En tout cas, tout le monde qui est arrivé a essayé de faire des initiatives pour résoudre ce problème, notamment de l'inexistence quasiment du développement en milieu rural. Donc, nous sommes arrivés et je voudrais que nous puissions passer beaucoup de temps à pouvoir discuter de la perspective d'avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce ministère pour essayer, tant soit peu, de régler des problèmes fondamentaux qui se posent au niveau des territoires.
Alors, par rapport à l'état de lieu que vous venez de faire, on se rend compte qu'il y a des défis énormes pour essayer de développer nos milieux ruraux. Alors, il y a déjà, il faut le dire, ce projet PDL 145 territoires qui a donné l'espoir pour rendre les milieux ruraux viables. Mais malheureusement, pour l'instant, selon beaucoup de nombreux observateurs, le taux de réalisation demeure encore faible, alors que ce projet a suscité beaucoup d'espoir pour rendre ces milieux ruraux viables.
Je suis encore à l'étape de l'évaluation. Je viens de parler au ministère il y a une semaine. Je suis encore à l'étape de l'évaluation pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour que, voilà, dans ce que nous sommes en train de faire, nous puissions... ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant aujourd'hui un président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait maintenant de l'agriculture ou du monde rural la priorité de son programme. Je crois que vous avez suivi le programme du gouvernement. Et vous avez vu que l'ensemble des mesures qui sont prévues, c'est pour essayer de régler des problèmes du développement du pays et plus précisément le développement rural. Et je crois qu'avec la vision qui est celle du président de la République et la détermination qui est la nôtre, nous allons commencer des actions concrètes que je vais devoir vous énumérer ici pour essayer de rectifier les lignes là où ça n'a pas marché dans le PDL 145 territoires, pour essayer de redonner un autre cap et surtout faire en sorte que les milieux ruraux participent au développement économique du pays. On ne peut pas développer le pays à partir seulement de la ville de Kinshasa et de quelques villes. On doit développer le pays de manière intégrale et intégrée. Et je crois que le dynamisme qui est le nôtre, nous allons devoir le mettre au service de ce pays pour qu'on entame des actions qui règlent la question au niveau de la base. Et c'est très important qu'on ne règle pas le problème par un coup de bistouri. Il faut les régler de manière profonde pour que les mesures ou l'effort que nous allons utiliser puissent être pérennisés dans une vraie stratégie, une stratégie d'abord d'autonomie alimentaire, puisque c'est ça la clé. Si notre monde rural s'investit à produire pour les pays, à assurer la sécurité alimentaire des produits qui sont effectivement 100% congolais, nous aurons réglé le problème. Puisque le problème n'est pas seulement des axes sociaux que nous menons au niveau des... On peut bien les faire, hein, aller faire des forages à gauche, à droite, aller mettre des lampadaires gauche, à droite. Mais ça ne règle pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est comment on intègre les villages dans la production nationale pour qu'en produisant, en créant des richesses, les villages puissent être rendus autonomes et créer la richesse aussi au niveau du village.
Donc, on comprend que c'est l'un des défis majeurs, en tout cas pour le gouvernement.
C'est le socle même du développement du pays. Comment faire en sorte que, là je deviens concret, comment faire en sorte que tous les maïs consommés dans le pays soient produits par nos villageois? Comment faire en sorte que tous les poulets qu'on produit dans le pays soient produits par les villageois? Comment faire en sorte que les riz que nous consommons dans le pays ne viennent plus du Brésil, ne viennent plus de la Chine, ne viennent plus de Vietnam, que ce soit les riz.
Mais c'est le discours qu'on a déjà entendu, monsieur le ministre, depuis 64 ans. Ce discours a toujours été le même, mais c'est sur le terrain qu'il y a des problèmes.
C'est comme ça que j'étais dit que moi, je ne vais pas faire des discours.
Exactement, voilà.
Et je ne voulais pas faire trop d'état dans ce qu'il y a. Je vais vous dire qu'est-ce que nous allons faire. Je ne prétends pas faire tout, parce qu'on ne fera pas tout à 5 ans, mais je vous dis, moi je vais commencer par les fondamentaux. Je vais commencer par les fondamentaux et vous allez, quand vous me poserez la question sur quelle approche que vous voulez prendre, Je devais vous les...
D'accord, vous aurez l'occasion de le dire avec cet échange avec les auditeurs parce qu'ils sont déjà en ligne et ils aimeraient bien intervenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. Nous recevons aujourd'hui le ministre du développement rural, Mohindo Nzangi Butondo, avec qui nous parlons de l'état des lieux du développement rural en RDC, 64 ans après l'indépendance, et également des perspectives d'avenir. Si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 099-716-80-79. Merci également de nous suivre en direct sur le plateforme digitale du Radio Capi. Vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube Radio Capi, sur Facebook Radio Capi, mais également sur X ou si vous voulez Twitter Radio Capi.
Radio Capi. Célébrons ensemble le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À partir du 30 juin, Radio Capi vous propose une semaine de couverture exceptionnelle pour commémorer cet événement historique. Au menu, des reportages captivants, des témoignages exclusifs de ceux qui ont vécu ces moments historiques.
Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique.
Du 30 juin au 6 juillet, suivez ce programme spécial sur nos ondes et nos plateformes en ligne. Radio Capi donne la parole à ceux qui ont façonné le passé de la RDC et à ceux qui continuent de construire son avenir. Vive l'indépendance de la RDC.
Parole aux auditeurs.
On va ouvrir le standard avec ce premier auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi, maître Patrick Odia. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour maître.
Bonjour Marcel.
Vous êtes en ligne maître. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'état des lieux du développement rural en RDC, 64 ans après l'indépendance, et c'est ici aussi possible de nous parler des perspectives d'avenir. Vous avez certainement suivi le nouveau ministre du développement rural qui est notre invité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Oui, bonjour Marcel et bonjour monsieur le ministre d'État, Mohindo Nzangi, et à tous les auditeurs de la radio Capi. D'emblée, je voudrais féliciter l'excellence, le ministre d'État, parce qu'il a eu la promotion, il était délaissé aujourd'hui le ministre de l'État. Mais j'ai aimé également, ou j'ai apprécié son parcours, notamment sa gestion au sommet de l'ESU, même s'il y a eu quelques ratés, quelques inquiétudes au niveau de la rigueur, nous n'avons pas senti rigueur, mais aussi de l'évaluation du système LMD, mais quand même beaucoup de réformes ont été initiées. Passons, aujourd'hui il est le développement rural qui constitue au jour d'aujourd'hui un ministère clé. Vous savez, s'il y a l'échec dans le milieu rural et tout le monde a envie de pouvoir connaître l'exode vers les centres-villes. Et lorsqu'il y a les centres-villes, ce sont des embouteillages, ce sont les banditismes et avec toutes ces conséquences collatérales également. Donc, il faudrait que ces ministères puissent apporter plus de changements, plus de réformes également pour qu'il y ait le développement à la base. Vous l'avez dit également, nous avons tenu des émissions avec le BCECO, le directeur de BCECO également, qui, lui en tant qu'organe politique, mais qui semblait avoir un discours politique. Rappelez-vous, il y a de cela 3-4 mois, nous lui avons demandé quel était le taux de ces méga projets de PDL 145 territoires. Est-ce que peut-il nous dire aujourd'hui à quel degré, à quelle fréquence également se joue l'exécution et les travaux, notamment Kalambambouji, Kananga, Tile Gelou et les autres? Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le BCECO n'a pas eu le courage de pouvoir nous donner. Les problèmes que Mohindo Nzangi soulève aujourd'hui, moi je me pose la question. Parmi les ministres aujourd'hui, on soulève ou on recrute parmi la crème des crèmes, les ministres. Mais dès lors qu'ils sont placés à la tête d'un ministère, nous ne sentons absolument aucun changement. Lorsque le ministre aujourd'hui parle du développement rural avec l'évaluation et que nous allons sentir, mais je ne l'ai pas suivi lui me dire ou nous dire ici à quel taux il pense d'abord exécuter. L'état des lieux de développement rural aujourd'hui est à quel niveau? Quels sont les défis? Quels sont les avantages ou quels sont les acquis déjà enregistrés? Et à quel degré peut-on également imaginer d'avoir quelque chose en termes de statistiques? Ça, c'est des premiers points. Deuxième point également, Lui, en tant que ministre d'État et développement rural, il a vu les programmes de la première ministre également du gouvernement. Comment pense-t-il exécuter ces programmes? Est-ce qu'il y a-t-il un plan directeur dans son ministère également? Si oui, à quel degré, quels sont les indicateurs clés du développement rural dans son secteur? Et quelles sont les provinces prioritaires? Quels sont les chantiers prioritaires? Dans quel domaine agricole? Tout en sachant également, je rappelle au ministre, et tout en sachant que le développement rural, c'est un problème ou c'est une question qui soulève l'interministérialité de tous les ministres également. Donc il faut qu'il y ait l'intervention de plusieurs ministres. S'il n'y a pas l'intervention de plusieurs ministres, je pense que le développement rural ne va pas aboutir. Parce qu'il faut parler également de la connectivité ou l'interconnectivité des provinces. Ça relève également du ministère des ITP.
Voilà, Maître Patrick, il faudra aussi qu'on donne l'occasion au ministre de réagir, parce que vous avez suivi dans la première partie, il a fait un état des lieux, et puis dans cet échange, il va revenir sur ce que vous voulez exactement savoir, c'est-à-dire quelles sont les réalisations qui vont être faites, quelles sont les priorités par rapport au programme de la première ministre pour ce qui est du gouvernement, j'allais dire pour ce qui est du développement rural. Merci Maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Il faut qu'on poursuive avec d'autres auditeurs. Nous avons Peter Maboudi qui est ici à Kinshasa. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, et je salue les ministres qui est sur votre plateau de la radio Capi.
On vous écoute. Ne revenez pas sur l'état des lieux parce que le ministre l'a déjà évoqué. Maître Patrick également. Si maintenant vous pouvez certainement parler comme l'a fait Maître Patrick Odia, chercher à faire de propositions pour le développement, pour développer nos milieux ruraux compte tenu du programme du gouvernement.
Absolument, Monsieur Marcel, je suis très content et très heureux parce que ce que Maître venait d'évoquer vers la fin de son intervention, il a fait allusion à ne pas considérer le problème de développement comme un problème ministériel, mais un problème du gouvernement. Et je félicite le ministre parce que l'état de lieu, il est sincère parce qu'il a reconnu que depuis l'indépendance, quand les Belges géraient ce pays, le pays avait une autre dimension. Et aujourd'hui, quand on nous a donné la charge, nous Congolais, et surtout eux qui nous dirigent, il n'arrive pas à faire avancer le pays, mais plutôt de faire reculer le pays, justement par rapport à la politique qui est mise en place. Et je viens encore, M. Marcel, paraphraser même ce que le ministre, parce qu'il était aussi conférencier dans le débat qui était organisé sur le développement du Congo, que l'institution, donc le chef d'une institution, M. Vital Kamerhe, le professeur d'université que j'ai beaucoup d'estime, a eu à reconnaître que pour développer le Congo, donc il y a un problème où la crème intellectuelle congolaise doit se mettre ensemble pour envisager qu'est-ce qu'il faut. Même si on prenait Obama, le maître au Congo, il n'y aura pas de développement. C'est le propos d'une autorité, d'une institution. Aujourd'hui, je crois que le ministre est là sur votre plateau. Donc le développement du Congo ne viendra pas du ciel, si ce n'est que nous-mêmes Congolais. Moi, j'ai toujours proposé, les solutions, c'est que nous ne connaissons pas ce qui est priorité et ce qui est urgence dans notre pays. Si vous tendez le micro aux dirigeants de tous les ministres, vous verrez que si vous posez la question, quelle est la priorité, il vous dira tout est priorité. Qu'est-ce qui est urgent? Il vous dira tout est urgent dans le pays. Lorsqu'on n'aura pas un modèle budgétaire adapté à notre réalité, M. Marcel, nous n'aurons pas à trouver solution. C'est pourquoi moi, je suis toujours revenu sur un modèle de budget prioritaire sectoriel. Donc, lorsqu'on aura un budget prioritaire sectoriel, là, on aura à penser sur le développement du pays. Il a parlé de la connectivité de province. Nous avons les routes nationales qui sont reconnues, 44 routes nationales que nous avons. Quel est l'état des lieux de toutes les routes, d'abord pour connecter notre pays? Donc, le Congo, c'est un grand pays, c'est un grand marché également. Donc, la production ne viendra pas du ciel s'il n'y a pas... Donc, même quand Nyamukasé, aujourd'hui, qu'on vient de doter les locomotives, M. Marcel, c'est pour l'évacuation des produits. Mais depuis tout ce temps, les produits qui étaient déjà... produits, permettez la tautologie par la Kanyangasé, c'est comment est-ce qu'on évacue ces produits? Moi-même, je viens d'abord, je vous signale que même à Mweka, quand j'étais lors de la campagne, il y a un opérateur économique agricole qui a perdu 300 sacs de maïs pourris dans le dépôt parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Les trains ne fréquentent plus Mweka. Donc, on n'a pas une vision claire pour développer notre pays.
Voilà, oui, vous l'avez déjà dit, Peter Maboudi, il faut une vision claire, savoir qu'est-ce qui doit être les priorités pour développer les pays. Vous avez également insisté sur, Maître Patrick Odia l'a dit, vous aussi également, vous êtes revenu sur ça, sur la transversalité du développement du monde rural. Il y a également une collaboration qui doit exister entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, mais également le ministère de Pêche et Élevage pour pouvoir développer nos milieux ruraux. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. On va sortir en dehors de nos frontières pour aller à Vienne retrouver Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher frère Marin. Bonjour à vous tous au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Capé et aussi nos respectueuses civilités, à son excellence monsieur le ministre du développement rural qui est avec vous au studio. Nous saluons ce geste de venir jusqu'au studio pour rencontrer la préoccupation de certains auditeurs qui sont aussi les citoyens congolais.
Voilà Franck, on va pas revenir pour avancer et donner l'occasion au ministre qui est avec nous au studio de parler du programme, notamment des priorités de ce qui doit être fait pour développer le monde rural. L'état des lieux a été déjà fait, tout le monde le dit, le ministre également l'a reconnu, c'est pas seulement les mondes ruraux, c'est tous les secteurs de la vie nationale. Alors s'il faut aller concrètement sur des propositions pour vraiment avancer et gagner du temps, qu'est-ce que vous aurez à proposer?
Oui, je crois que je vous ai écrit plusieurs fois. Ma préoccupation, c'est pas seulement pour moi comme auditeur, mais c'est pour une catégorie de citoyens. Monsieur le ministre, dans le Grand Bandundu, la ville même de Bandundu, dans le Grand Bandundu comme province, le chef-lieu de la province de Kwilu est toujours enclavé depuis des années. Et pour le moment, depuis des années, on n'a jamais compris pourquoi certaines routes qui doivent désenclaver cette ville, parce que désenclaver la ville de Bandundu, c'est relier d'abord deux provinces, le Kwilu et le Maindombe par la route nationale numéro 17. Et désenclaver la ville de Bandundu, c'est chercher à relier la province du Kwango, Kwilu, Maindombe et aussi le Grand Équateur. Donc, par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, il y a une liste de routes que j'aimerais vous rappeler, si peut-être vous avez un de vos conseils sur place, il peut noter.
Allez-y rapidement. Oui, allez-y rapidement.
La RN numéro 17 partant de Mongata sur la nationale numéro 1 jusqu'au port de Ngandambo à la ville de Bandundu. Et il y a le tronçon qui part du point 316 sur la route nationale numéro 1 jusqu'au port de Bouzala, une des banlieues de Bandunduville. Et il y a les tronçons qui partent de Bandunduville jusqu'à la cité de Nyoki. Il y a les tronçons qui partent de Bandunduville jusqu'au point, jusqu'au Kambulungu, passant par la cité de Bagata, Zaba, secteur qui l'on a Belmiese. Et il y a aussi la route qui doit partir de la cité de Bulungu jusqu'à Sia, et de Sia jusqu'à Panu, et de Panu jusqu'à Yolo pour relier les territoires de Bulungu et d'Idio passant par Tikwit. Et il y a la route qui doit partir de Bandunduville jusqu'à Yolo pour relier les Kwilu, les territoires de Bagata et Idiofa passant par Bagata sans arriver à Tikwit. Et il y a même des préoccupations pour partir dans les Kasongolunda, dans le Kwango, à partir de la route nationale numéro 1 à partir de Bukangalonzo, partir de là jusqu'à Popokabaka, jusqu'à Kasongolunda, et partir de Kikwit jusqu'à Idiofa, partir de Kikwit jusqu'à Kaemba.
Alors Franck, donc, Franck, je retiens, vous vous intéressez au Grand Bandundu, qu'il faut absolument pour développer les milieux ruraux dans cette province et qui est aujourd'hui démembrée. Il faut absolument, on l'a dit, pour comme pour les autres provinces, il faut une connectivité des routes. Et là, vous faites bien de donner ces propositions concrètes. C'est au ministre de voir par rapport au programme du gouvernement, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans le cadre de la connectivité des milieux ruraux, de voir comment essayer de résoudre ce problème. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. On revient au pays pour accorder la parole à Mosbissi, moi qui nous appelle depuis Bukavu, et puis on donnera l'occasion au ministre de réagir par rapport à toutes ces interventions après avoir lu certainement une ou deux réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. À Mosbissi, moi vous êtes ici en RDC, à Bukavu précisément. Bonjour Amos.
Bonjour cher Marcel. Bonjour à tous les auditrices, auditeurs de la radio Okapi. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole.
Merci bien. Au fait, nous saluons les sujets choisis aujourd'hui par rapport au développement de nos milieux ruraux. Mais moi, je pense, je venais de suivre beaucoup de mes prédécesseurs. Le problème de la RDC, c'est un problème d'hommes. Et on se pose des questions. Qui finalement sauvera notre pays? Parce que ceux qui énervent, ceux qui sont à l'opposition, il faut beaucoup de discours. Une fois au pouvoir, rien ne change. Et des fois, ils deviennent plus dangereux que ceux qui dirigeaient, que leurs prédécesseurs qu'ils critiquaient. Beaucoup déjà se posent des questions, Marcel. Quel est le rôle du ministère du développement rural en RDC? C'est une question que beaucoup déjà se posent. Parce qu'on ne voit absolument rien et des fois on se pose des questions. Est-ce qu'on nomme déjà des ministères pour répondre aux attentes du peuple congolais, les relever les défis, ou juste on les nomme pour qu'ils se partagent les gâteaux?
Amos, s'il vous plaît, je veux qu'on progresse, je veux qu'on soit concret, parce que tous ont décrit la situation de la RDC 64 ans après, mais non, on va aller de l'avant. Tout ce qu'on a eu à décrier, comment on va pas toujours revenir sur ça, mais non, on va rester dans le concret. Voilà pourquoi, pour le développement rural, on veut savoir qu'est-ce que vous avez concrètement nous dire de manière assez qu'on aille de l'avant, qu'on arrête de parler toujours de l'homme congolais, qu'on se dise maintenant que voilà, il est temps d'aller de l'avant. Comme vous savez, tout le monde porte énormément de l'espoir avec ce nouveau gouvernement dirigé par, pour la première fois, une femme ministre, premier ministre. Voilà, s'il faut parler de développement rural, concrètement, quelles seront vos propositions pour donner l'occasion au ministre de réagir, pour nous dire aussi concrètement qu'est-ce qu'il pense faire par rapport au programme du gouvernement, qu'est-ce qu'il compte faire réaliser, pour réaliser concrètement le programme du gouvernement pour le développement rural.
Très bien, concrètement, mais nous devons nous dire, dans le cadre du développement, il faut évaluer le passé pour mieux évoluer. Moi, je me dis, avec le ministre sortant, il y a beaucoup de projets qui ont été budgétisés, initiés par le ministre sortant au Sud Kivu, dans le cadre des routes de dessertes agricoles. L'argent a été décaissé, l'argent a été retiré dans des banques. On a beaucoup d'éléments y afférents, mais aucune trace sur le terrain. On voudrait d'abord savoir où est allé cet argent. Ça va permettre au nouveau ministre présent dans le studio de savoir comment il va cheminer, par où commencer et quoi corriger pour bien évoluer. Voilà. Mais tant que cela ne sera pas le cas, c'est un problème sérieux.
Merci.
Pour ce qui est du projet de 145 territoires,
oui.
La première ministre elle-même a dit que le projet aurait réussi à plus de 95%. À Walungu, il n'y a même pas une pierre. Même une pierre n'a jamais été posée.
Alors voilà, merci Amos Bissimo. Vous avez suivi certainement le ministre qui nous a dit qu'il vient d'arriver à la tête de ce ministère. C'est le nouveau ministre et il va faire également l'évaluation de l'état d'exécution de tous ces projets. Merci Amos Bissimo d'avoir appelé à Depi à Bukavu. Merci également de nous suivre en direct sur le plage digital de Radio Capi, sur YouTube Radio Capi, sur Facebook Radio Capi, mais aussi sur X, si vous voulez, Twitter Radio Capi. On revient à vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi ces tours d'intervention des auditeurs. Et là, on va passer sur le concret. Vous avez le temps de faire l'état des lieux et vous avez commencé déjà à donner certaines perspectives. Il y a des auteurs qui sont revenus sur ça, surtout par rapport à la connectivité des milieux ruraux. Il y a des problèmes de routes qui n'arrivent pas à faire à ce que nos milieux ruraux puissent vraiment se développer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit attendre du développement rural pour le nouveau gouvernement?
Oui, merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, toutes les questions sont dans le même sens. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Exactement.
Ouais. Moi, je voudrais bien dire simplement que je n'ai pas la prétention de venir régler, comme par un coup de baguette magique, toute la situation des... Mais ce que je voudrais rassurer tous ceux qui nous écoutent, c'est que par rapport aux moyens qui seront mis à ma disposition, je vais faire des choses. Et moi, dans mon programme, le premier axe, c'est le désenclavement du pays. En tant que ministre du développement rural, la première compétence que j'ai, c'est de faire les routes de dessertes agricoles et les voies navigables des dessertes agricoles. Alors, heureusement pour moi, puisque c'était ministère, c'est aussi mon domaine de formation. Et donc, je me suis dit que dans ces pays, parfois, nous faisons des choses sans savoir dans la durabilité comment elles vont aboutir. Vous ne pouvez pas faire une route de cette agricole dans un millier, une route qui n'aboutit à rien. Comme vient de l'indiquer ici notre ami qui est à Vienne, plusieurs routes nationales n'existent presque plus ou ne sont pas dans un état dans un bon état. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une route de cette agricole qui débouche sur des routes nationales qui ne sont pas praticables. Et on a fait beaucoup de programmes ici, on a réhabilité beaucoup de routes, et 3 mois, 4 mois après, toutes ces routes n'ont plus n'ont servi à rien, parce qu'effectivement, on fait une stratégie de faire des routes qui aboutissent à des lieux qui, eux aussi, ne sont pas. Parce que moi, je ne suis pas le ministre des ITPR pour faire les routes nationales. Donc, j'ai la dame à charge, faire les routes de cette agricole qui aboutissent aux routes nationales. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? En regardant la carte du pays, heureusement que j'ai travaillé sur ce programme, je me suis retrouvé que 94 territoires sur 145 sont désenclavés par l'eau. Si vous voyez la carte, effectivement, c'est ça que les Belges utilisaient. Toutes les routes dans cet espace-là, toutes les routes de dessertes agricoles convergeaient vers des ports. Vous avez vu notre ami de Vienne,
Franck, oui.
Franck, qui vous a parlé, par exemple, si vous voyez ici la carte qui est devant moi, malheureusement, je ne sais pas la partager avec tous les auditeurs, mais ce n'est pas grave. Vous avez trouvé, par exemple, quand il parle de Bandundouville, il dit Bandundouville est enclavé. Mais Bandundouville, c'est port. Donc, c'est enclavé par la route, mais c'est désenclavé par les eaux qui sont navigables. Et je voudrais bien dire aux gens qu'en tant qu'économiste, je sais que les transports maritimes, c'est le transport le moins cher.
Mais mal exploité avec de baleinières qui...
Je voudrais y arriver. C'est comme ça que dans le programme de désenclavement que j'ai comme mission, la première chose que je vais faire, le premier projet que je vais présenter déjà ce vendredi au Conseil des ministres, c'est la promotion des voies navigables des dessertes agricoles. Je voudrais bien le dire aux gens, puisque c'est des choses claires, il y a des études claires, il y a eu des financements de l'Union européenne pour les balisages de toutes ces pistes. Ça coûte moins cher d'entretenir une voie navigable des dessertes agricoles ou une voie navigable tout court que d'entretenir une route. Ça coûte moins cher de baliser 1 kilomètre des voies navigables que d'entretenir une route de cette agricole. Encore que, au niveau de la durabilité, c'est plus facile parce que l'eau coule et l'eau coulera toujours sur ces voies navigables.
Mais il faut également, monsieur le ministre, et ça, il faut le dire, assurer les bons moyens de transport par rapport à ces voies.
Donc, je voudrais vous dire, c'est comme ça que je suis en train d'y aller, je vous dis que, pour moi, ce que je vais commencer à faire, et dès le mois prochain, je commence, c'est de baliser les voies navigables des dessertes agricoles. Et ça représente pour moi 11 300 kilomètres dans les ressorts du ministère du développement rural et effectivement 8 000 kilomètres dans les ressorts du ministère des transports. Mais il faut dire que les grandes voies qui sont sous la charge du ministère des transports n'ont pas beaucoup de problèmes puisqu'elles sont praticables même aujourd'hui avant de pouvoir continuer le balisage. Il s'est posé des problèmes pour ce qui concerne. Par exemple, en prenant seulement les bassins de la rivière Kassai, vous désenclavez les Kwango, vous désenclavez les Maïndombe, vous désenclavez les Kwilu, vous désenclavez les Kassai, vous désenclavez les Kassai orientales, les Kassai occidentales. C'est plus facile à faire et moins cher à utiliser que de continuer. Et c'est ce que les Belges ont utilisé. Ils ont utilisé massivement les voies de cette agricole. À ce moment-là, les routes de cette agricole que nous allons faire dans ces zones, ce sont des routes qui conduisent les marchandises ou les denrées alimentaires vers des petits ports que nous allons devoir réhabiliter et construire des entrepôts. Et pour ce faire, nous allons privilégier les PPP. C'est-à-dire que
le partenariat public-privé, c'est-à-dire
que tous les entrepreneurs agricoles, ou les petits ou moyens, ou des coopératives qui sont intéressés à exploiter un tronçon, à exploiter une voie navigable, on va devoir les appuyer pour faire de petits ports, pour faire de petits entrepôts, afin de permettre... Hier, j'ai parlé avec un opérateur qui quand il m'a suivi à la conférence de l'université, il m'a dit, mais voilà. Il m'a dit, mais excellence, est-ce que vous savez que moi, j'ai un bateau? Et il dit que avant-hier, mes barges quittaient Lusambo pour rentrer à Kinshasa et ils étaient vides. Il dit, j'ai décidé avec mon gérant là, de faire un autostop, c'est-à-dire que village par village, quand il arrive à un village, il s'approche et il dit aux gens, j'ai de l'argent, 5 kilos de maïs, je voudrais que vous veniez. Et vous savez à combien il a acheté le sac de maïs? À 25 000 francs. C'est-à-dire que il m'a dit qu'à 3 villages, il a fait 120 tonnes. Ça veut dire que nous avons des denrées alimentaires qui pourrissent. Alors qu'aujourd'hui, le maïs ici à Kinshasa, aujourd'hui, sur le marché, un sac de maïs, c'est 135 000 francs. Donc, nous avons des denrées alimentaires qui pourrissent parce que les gens n'ont pas les moyens de pouvoir les évacuer.
Déjà, on retient, M. Smith, parce qu'il faut avancer, les voies navigables font déjà partie de vos projets pour désenclaver le monde rural.
Je vais faire la promotion et je voudrais bien rassurer ceux qui nous suivent que ça me permet de désenclaver 94 territoires sur les 145, ce qui représente 65% de nos territoires en milieu rural. Ça, c'est le premier axe. Alors, le deuxième axe, effectivement, ce sont les routes de dessertes agricoles qui vont maintenant être orientées dans les zones déjà couvertes par les réseaux des fleuves, qui vont être orientées vers des ports et pour les endroits qui ne sont pas couverts des provinces comme le Haut-Ouélé, les provinces comme l'Ituri, comme le Nord-Kivu, comme le Sud-Kivu, Tanganyika, l'Omami, Olomami, l'Oualaba, au Katanga, on va effectivement réorienter vers les routes nationales. Je voudrais donc que cela soit retenu comme tel, que c'est ça la grande orientation que nous allons prendre. Et je voudrais dire aux gens que, en dehors de cette activité de désenclavement, nous sommes en négociation, et je me remercie celui qui a parlé de la transversalité
de notre ministère.
Nous sommes à pour parler avec le ministre de l'entrepreneuriat pour que les gens propriétaires des baleinières, puisque les gens utilisent les baleinières parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir faire des bateaux. Mais si vous arrivez à Goma, vous allez trouver que les Congolais fabriquent des bateaux, les gens voyagent ou même les marchandises sont faites dans des conditions qui sont acceptables. Et donc, on est en discussion avec lui pour qu'on fasse un programme un peu d'esprit de vie, comme on a fait esprit de vie ici, c'est-à-dire que le gouvernement va appuyer les opérateurs à pouvoir fabriquer des bateaux, et je voudrais bien dire des bateaux adaptés à chaque cours d'eau, de telle sorte que les gens qui voyagent là-bas, les propriétaires de baleinières, ils aient la possibilité de venir acheter à tempérament des bateaux, avec l'appui du ministère de l'entrepreneuriat, bien évidemment. Et c'est là pour faire des bateaux dédiés aux cours d'eau. Par exemple, on s'est dit, la rivière Sankuru. Voici les caractéristiques des bateaux qui peuvent naviguer là-bas. Et donc, on fabrique des bateaux qui sont adaptés à cette rivière et on les dédie pour cette ligne-là. De telle sorte que les propriétés des baleinières aujourd'hui les remplacent progressivement par des bateaux bien équipés avec la possibilité de faire autre chose.
Donc ça, c'est déjà un projet concret.
Ça, c'est le désenclavement.
Ouais, ouais.
Et vous comprenez que dans ce projet, il y a tout un ensemble de projets intégrés dedans avec lesquels on va travailler effectivement.
Allez, d'autres aspects.
Oui. Il y a les ports, il y a les entrepôts, il y a les bateaux. Et ça permet effectivement à l'activité de pouvoir reprendre. Le deuxième aspect de ce que j'ai comme travail comme ministre, c'est l'encadrement. L'encadrement des agriculteurs. Effectivement, nous allons, selon les moyens qui seront mis à notre disposition, bien évidemment, pour cette question-là, nous allons essayer de faire en sorte que nous soyons présents. Nous soyons présents pour aider le ministre de l'Agriculture, puisque c'est lui qui a la charge de la production, aider le ministre de l'Agriculture à encadrer les paysans par des coopératives. Et nous avons dit que nous n'allons pas encourager les gens à rester dans l'esprit de création des associations ou des ONG. Créer des coopératives, puisque avec les coopératives, vous avez la mission de faire des profits pour votre bien-être. que de restreindre des associations. Nous allons encourager les gens à faire des coopératives. Nous allons les aider à obtenir tout ce qu'il y a comme documents à avoir et pour les aider à s'intégrer dans cet aspect-là. Alors, en dehors de ça...
Mais rapidement, parce qu'il faut qu'on progresse, mais
en dehors de ça, oui. En dehors de ça, j'ai comme mission l'organisation des villages. Alors, nous allons lancer très rapidement et puis là, je vous appellerai. Nous sommes pratiquement le seul pays où, quand vous arrivez dans un village, vous ne savez pas si c'est un village organisé. Il y a personne qui vous pose une question de savoir vous venez d'où, vous allez où, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ceci. Nous avons dit que nous allons faire des catalogues de villages organisés. Je vais aller très rapidement. C'est-à-dire que nous allons décréter, ensemble avec les gouverneurs, bien évidemment, avec les chefs de territoire, que chaque village de ce pays doit avoir cette chose. Chaque village. Il y a des choses qu'on a maintenant, qu'on peut avoir à décréta, et d'autres choses, effectivement, qui vont demander que les gouvernements interviennent. La première chose.
Énumérez rapidement, c'est parce qu'il y a des auditeurs, M. le ministre, qui veulent intervenir.
Il faut beaucoup intervenir. Un village doit avoir une école. Un village doit avoir un poste de santé. Un village doit avoir un marché. Un village doit avoir ce qu'on appelle l'espace du village. L'espace du village, ça veut dire c'est un endroit qui permet aux gens de venir apprendre un peu de civisme, où on doit avoir un drapeau de la République démocratique du Congo. C'est très important que l'on le sache. Un village doit avoir un cimetière. Quand nous faisons la campagne, nous arrivons à des endroits où les gens nous posent des questions. Non, quelqu'un est mort ici, on ne sait même pas où l'enterrer, puisqu'effectivement, un village organisé, il n'a pas de cimetière. Un village doit avoir une activité économique intégrée. C'est-à-dire que si vous êtes producteur de maïs, vous devez avoir à côté de ces maïs un petit moulin, vous devez avoir un petit entrepôt qui vous permet de pouvoir le faire. Un village doit avoir une radio rurale qui vous permet de pouvoir communiquer entre vous. Un village doit avoir un espace de jeu.
Voilà, donc,
on va devoir travailler avec
exactement.
Ça pour faire de l'animation. Il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent.
Et on va suivre de près
comment tout ça. Et il y a des choses qui vont demander un accompagnement
du gouvernement. On va suivre de près comment tout ça va se matérialiser.
En dehors de ça, il y a l'électrification rurale, l'hydraulique rurale, et ça fait partie de nos activités de routine que nous allons faire. Mais je vous ai dit que le fondamental, c'est d'appuyer la production rurale. Et pour appuyer la production rurale, les facteurs clés, c'est le désenclavement, c'est avoir la possibilité d'évacuer les produits agricoles vers les centres de
production. Voilà, ce qui est bien dit. Alors, on va prendre trois derniers auditeurs. Et ensuite, on va conclure avec notre invité, le ministre Mouindo Zangi Butondo, nouveau ministre du développement rural. Et Kanga Moli, vous nous appelez de Bounia. Bonjour, Ekanga. Ekanga Moli, vous êtes à Bounia, en Ituri. Il me semble qu'il n'est plus en ligne. Jérémy Mamba, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. Hein. Bonjour également. À l'invité. Bon, je pense que le ministre a beaucoup de choses dans son ventre, ça, nous le voyons, mais le problème ici dans notre pays, c'est être pragmatique. Quand vous liez les deux, ça peut vraiment produire de bonnes choses. Et je me dis, tout ce qu'on a comme chapelet d'intention, etc., de bonnes choses, mais au finish, vous savez, le problème réside au niveau du Parlement. C'est là que tout doit se régler. Parce que moi, je me dis, le gouvernement, qui est d'ailleurs celui qui a les prérogatives, n'est-ce pas, de définir la politique générale du pays, il doit s'en remettre au Parlement. Que fait le Parlement? Parce que aujourd'hui, nous voyons que tous les députés nationaux, y compris ceux qui sont des grands, alors vous les voyez tous descendre dans les territoires pour aller chercher l'électorat. Alors moi, je me pose la question, comment se portent maintenant les territoires? C'est ça, ça reste vraiment des questions pendantes.
Voilà,
alors, je voudrais à ce que le Parlement donne des moyens. Je voudrais parler d'un budget conséquent pour répondre aux besoins des ministres, parce que vous voyez là, le ministre a beaucoup de choses qu'il a étayées là, et il a vraiment beaucoup de choses.
Mais il faut des moyens pour arriver à matérialiser tous ces projets. C'est l'essentiel de votre propos, j'imagine. Vous insistez, le programme il est ambitieux, mais il faut également des moyens pour le réaliser. On court derrière les temps. Merci à Jérémy Mamba d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour Blaise. Blaise Saïdi n'est plus en ligne, il me semble, n'est plus en ligne. Alors, avant de revenir à notre invité pour conclure, je m'en vais quand même lire une réaction ou deux sur la page Facebook par aux auditeurs. Vous étiez nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous avons par exemple Robert Kaboué qui nous écrit depuis le territoire de Demba au Kassai central. En tout cas, dans nos différents milieux, les gens vivent dans des mauvaises conditions parce que ceux-là qui dirigent les autres n'ont pas la volonté pour le développement et le progrès de nos différents territoires. Le ministre doit s'impliquer pour que la RDC soit développée, sinon la RDC restera toujours un pays qui ne va jamais aller de l'avant. Georges Kilangalanga, depuis Kisangani, nous écrit ceci. Les constats sur les conditions de vie dans les milieux ruraux est plus amer. Nous pensons que cela est la résultante des politiques publiques inefficaces et qui ne prennent en compte pas les réalités endogènes, mais aussi les manques d'une approche de croissance claire. En termes de perspective, nous proposons au gouvernement d'avoir un plan de développement qui partira de la base, améliorera le sommet selon les spécificités locales, au cas où le PD 145 territoires métropolitains qui soit amélioré en s'appuyant prioritairement aux problèmes de base comme les routes, l'eau et à l'électricité. Par exemple, vous avez été nombreux à réagir. Nous vous disons merci par rapport à ces sujets. Comme vous savez, nous ne pouvons pas lire toutes ces réactions. Nous vous disons simplement merci. Alors, on va se tourner vers notre invité pour conclure ces magazines et pour les auditeurs où vous avez fait avec nous l'état des lieux, qu'il faut le dire, n'est pas bon du secteur du développement rural. Comme vous avez dit, c'est l'état des lieux un peu général, mais voilà. Il est maintenant temps pour le nouveau gouvernement d'essayer de rectifier le tir. Et vous avez déjà un certain nombre de projets dont vous comptez mettre en vue, mais également vous avez suivi Jérémy Mamba qui a dit qu'il faut absolument que les moyens suivent.
Oui, bien évidemment, il faut absolument que les moyens suivent. Si on n'a pas tous les moyens à notre disposition, ça va être très compliqué. Mais moi, je me dis que la volonté vaut plus que les moyens. Donc, étant donné que nous avons la volonté de faire quelque chose, nous allons commencer quelque chose. Et effectivement, tout en souhaitant et en demandant effectivement au Parlement et à tout le monde de pouvoir mettre à notre disposition des moyens. C'est possible de sortir de ce bourbier. C'est possible de faire des choses autrement. C'est possible de développer le pays. Et donc, il faut que nous tous, nous puissions nous mettre au travail. Comme je vous ai dit, il y a des actions qui demandent absolument d'avoir des moyens conséquents pour pouvoir y arriver. Et moi, je crois que je ne suis pas dans une logique de faire les choses à moitié. Je vais vous dire clairement que je ne suis pas aussi dans une logique de laisser ce travail se faire par des étrangers. Il faut que le développement, ça soit l'affaire...
Ah, ça, c'est aussi un véritable problème dans ces pays.
Ça soit l'affaire de nous, Congolais.
Ils sont présents dans tous les secteurs de la vie nationale.
Non, ça, c'est pas un problème. Mais moi, je dis tous les travaux qui vont être exécutés. Dans le cadre de mon ministère, j'aurais souhaité, je voudrais bien évidemment, que les Congolais soient impliqués. Puisque lorsque vous avez souffert pour faire quelque chose... Vous apprenez soit aussi de manière conséquente. Lorsque nous prenons des gens qui viennent de partout pour venir faire même les petits travaux des routes et ainsi de suite dans nos milieux, ça ne donne pas de l'expérience. Et puis je voudrais m'appuyer sur l'administration, puisque la pérennisation de ces actions n'est pas aussi la maîtrise de ces actions par nos administrations. Nous avons l'OVDA. Nous avons ONHR qui sont des offices qui ont été créés dans notre ministère pour pouvoir booster ce genre d'activité. Et enfin, oui. Je voudrais donc demander les Congolais à s'impliquer, puisque déjà là, nous sommes en train de lancer des activités pour impliquer les paysans ou les gagne-petits. Il y a par exemple
On est à la fin, oui.
Des grandes fermes. Nous venons par exemple d'intéresser quelqu'un qui nous amène une grande ferme de parentaux pour les poussins, puisque vous savez que tous les poussins, nous les venons de l'extérieur. Nous voulons que vraiment les gens créent des petites moyennes entreprises qui vont autour de tous les grands projets qu'on va faire pour que les Congolais s'impliquent et qu'ils gagnent le marché pour nous aider à développer.
Monsieur le ministre Mouindo Zangi-Boutondo, nouveau ministre du développement rural, merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver certainement prochainement pour avoir une idée sur l'avancement de tous ces travaux. Nous vous disons merci d'avoir été là.
Merci beaucoup, je serai à votre disposition.
Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Polydor Basunga qui est à la mise en nom d'Ablechindani et Julie Fezabongonda qui l'ont réalisé et coordonné. Merci également à Clément Chimanga de l'équipe multimédia des Radio Capi. J'espère vous retrouver très prochainement au micro. C'était Marcel Ngombombala.